Ce soir, émission spéciale en hommage à Mireille Delmas-Marty. Elle était si frêle d'apparence et si forte intellectuellement. Elle était lucide, mais ces derniers temps, lucide, assez désespérée. Pessimiste, mais pessimiste active. Elle, c'est Mireille Delmas-Marty, une grande intellectuelle du droit qui a placé l'éthique de la justice comme fondement de sa recherche, recherche qui s'est déployée à la fois dans ses cours du Collège de France, dans ses livres et dans ses interventions dans le monde entier. Elle qui croyait à la boussole des possibles, c'était d'ailleurs le titre de son dernier ouvrage, nous avertissait haut et fort des sirènes de l'obsession sécuritaire. Elle s'est éteinte hier soir. Ce soir, en hommage à cette grande penseuse du XXIe siècle, nous rediffusons l'émission que nous avons eu la chance de faire avec elle, 12 mai 2020. Mireille Delmas-Marty.
L'heure bleue sur France Inter.
Nous savions que la démocratie était fragile. Mais nous pensions que le triptyque démocratie, droit de l'homme, état de droit saurait résister car il avait fallu des siècles pour le mettre en place. Il aura suffi pourtant de quelques années pour le déconstruire sans que nul ne s'alarme, sauf quelques belles âmes attardées dans leurs rêves de beauté et de bonté que l'on disqualifie au nom de l'efficacité. Mireille Delmas-Marty est ce soir notre invitée à l'occasion de la publication de son nouvel ouvrage intitulé « Une boussole des possibles ». Mais comme chaque soir, on va commencer en musique et ce sera Barbara.
Derrière la saleté, s'étalant devant nous, derrière les yeux plissés, les visages mous, au-delà de ces mains ouvertes ou fermées qui se tendent en vain ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. L'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Par-delà le concert des sanglots et des pleurs et des cris de colère des hommes qui ont peur, par-delà le vacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de charretier, plus fort que les enfants qui racontent les guerres et plus fort que les grands qui nous les ont fait faire. Il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, la berceuse des mers, la prière des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement. La berceuse des mers, la prière des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Il nous faut écouter. Il nous faut regarder.
Merci d'être avec nous, Mireille Delmas-Marty. C'est un bonheur que de vous écouter. Vous êtes spécialiste de droit. Moi, je dirais que vous êtes aussi une philosophe de droit. Vous êtes professeur honoraire au Collège de France. Vous y avez occupé pendant longtemps la chaire des études juridiques comparatives et internationales du droit. Je voudrais d'abord vous poser une question personnelle. Comment est né votre amour du droit et vous qui le réinventez à l'aune de la philosophie et de l'actualité politique? Est-ce que c'était une passion, une vocation ou est-ce que c'était dans le sang puisque votre père était magistrat?
C'est difficile de répondre, mais je pense que ce n'est pas une passion qui est née tout de suite. Dans un premier temps, j'ai fait du droit parce que j'étais un peu attirée par de tous les côtés. J'ai fait, à la même époque, j'ai commencé à apprendre le chinois, par exemple. Et puis, j'ai continué le droit essentiellement pour des raisons pratiques, parce que j'attendais un bébé. Et ça faisait beaucoup, beaucoup le droit, plus le chinois. Et puis...
Plus le bébé.
J'ai interrompu, plus le bébé. Alors, j'ai interrompu le chinois parce que c'était ce qui me prenait le plus de temps. Et j'ai continué le droit parce que c'est ce qui me laissait le plus de temps pour m'occuper du bébé. Ensuite, le droit a commencé à me passionner assez tard, mais en fait, quand le droit est devenu extraordinairement complexe. Parce que quand j'ai commencé les études de droit, c'était un cadre assez strict. On étudiait le droit ici et maintenant, c'est-à-dire le droit en France. Il y avait peu de cours de droit international obligatoires, il n'y avait pas de droit comparé ou très peu. Donc le droit, c'était quelque chose d'assez simple, d'un peu technique, essentiellement à base d'argumentation logique. Alors peut-être que l'argumentation logique, j'en avais un certain sens inné venu de mon père, effectivement, mais ce qui me passionne en fait dans le droit, c'est surtout cette complexité qui s'est introduite et qui rend beaucoup de choses possibles. C'est pour ça que mon dernier livre, j'ai mis en titre « Une boussole des possibles ». Je pense que le droit bien utilisé, utilisé avec un peu d'imagination, permet de nombreuses possibilités. Et au fond, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est là qu'on retrouve peut-être quelque chose qui est en profondeur et ce qui m'intéresse le plus, l'imagination, la créativité. On n'y pense pas, en général, quand on n'est pas juriste, on ne pense pas que le droit puisse être un domaine de création. En fait, il l'est. Et je crois que c'est ça qui m'a passionnée.
Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression, nous, pauvres ignares, en tout cas, moi, je suis ignare du droit, on a l'impression que le droit, ça s'applique. Et alors que vous avez réinventé un art de l'interprétation du droit, un art du comparatisme. À partir de quand, à votre avis, le droit est-il devenu une dynamique d'interprétation de la société ?
En fait, j'ai pas inventé un art de l'interprétation ni du droit comparé, ça existait bien avant moi. Mais ce que j'ai essayé de développer, notamment dans mon cours au Collège de France, qui s'appelait « Internationalisation du droit », j'ai essayé de développer le rôle des interactions, précisément, entre les différents systèmes de droit. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée dans l'histoire du droit à un moment d'accélération extraordinaire de ces interactions. Comme je le disais, quand j'ai commencé mes études, on étudiait essentiellement le droit français ici et maintenant. On faisait aussi, le cas échéant, un peu d'histoire du droit, mais on ne travaillait pas sur ces interactions. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la construction européenne qui oblige à des interactions nombreuses entre le droit et, on peut dire, les droits européens, parce qu'il y a les droits du marché au départ, marché commun, on l'appelait, et puis il y a les droits des droits de l'homme. Il y a deux cours européennes, on l'oublie souvent, la cour de Luxembourg pour le marché à l'origine, ça s'est étendu ensuite au-delà du marché, et la cour de Strasbourg pour les droits de l'homme. Alors déjà, c'est compliqué d'avoir deux cours suprêmes en européenne, donc à la fois suprême et supranationale. Et puis, en même temps que se construisait l'Europe, la mondialisation a atteint en profondeur et à une vitesse croissante, les systèmes de droit. Donc l'ensemble est devenu à la fois très instable, très fluctuant, très novateur. Il y a beaucoup maintenant d'imprévisibles. Alors l'imprévisible, c'est un peu l'ennemi du droit, parce que le droit se veut prévisible pour protéger contre les risques d'arbitraire, mais le droit est devenu, comme l'ensemble d'ailleurs de nos relations sociales, comme peut-être l'ensemble de nos sociétés, de plus en plus imprévisibles. Et c'est ça qui est à la fois fascinant et angoissant, peut-être d'une certaine manière. On aimerait pouvoir prévoir, et on le peut de moins en moins.
Alors, à quoi sert le droit en cette période extrêmement tourmentée ? Je sais que vous avez signé des tribunes durant cette période de confinement contre ce mot qu'on entend scander tous les jours, tous les jours, tous les jours dans les médias, ce mot d'exception. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui encore dans un état d'exception? Et que veut dire le mot état d'exception pour vous, Mireille Delmas-Marty?
État d'exception, état d'urgence, hein, c'est les deux mots qui sont employés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Mais c'est inquiétant parce que c'est une situation qui, en principe, comme elle est d'exception ou comme elle est d'urgence, ne doit pas durer. Elle ne doit pas durer parce que, en présence de circonstances exceptionnelles qui sont vécues comme une menace ou qui sont vécues comme une urgence, l'idée, c'est qu'on autorise des dérogations à la plupart des principes fondamentaux qui font la démocratie et les droits de l'homme. Donc cet état d'urgence ou cet état d'exception, il est sans doute nécessaire dans des circonstances exceptionnelles. En l'occurrence, vous le savez, la circonstance exceptionnelle, c'est cette pandémie. Mais la question, c'est de savoir comment faire ensuite pour sortir de l'état d'urgence ou de l'état d'exception. On a une première expérience au début du XXIe siècle avec l'exception créée par le terrorisme, les attentats du 11 septembre 2001. Et puis, on a fait l'expérience nous-mêmes en France en 2015 avec les attentats qui ont eu lieu à Paris. Et là aussi, la question a été de savoir comment terminer cet état d'urgence qui avait été proclamé et réaffirmé à plusieurs reprises. Et ça a été finalement une sorte de, je dirais, un tour de passe-passe, c'est-à-dire pour abroger l'état d'urgence, il a fallu transposer dans le droit ordinaire une grande partie des exceptions créées pour répondre à l'urgence du terrorisme. Donc le risque que j'entrevois pour aujourd'hui aussi, pour demain, la crainte que j'ai, c'est qu'on se retrouve dans le même piège qu'avec le terrorisme, c'est-à-dire que soit on maintient de mois en mois l'état d'urgence avec toutes les exceptions que ça implique par rapport aux droits fondamentaux, ou bien alors on transpose ces exceptions dans le droit ordinaire, qui à ce moment-là risque d'être pour une longue période indéterminée un droit, je dirais, autoritaire, pour ne pas dire totalitaire. Et là se posent toutes les questions de liberté d'aller et venir, les questions de respect de la vie privée, toutes ces questions dont on discute actuellement depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois, autour de la pandémie.
Trouvez-vous, Mireille Delmas-Marty, que nous nous trouvons dans une situation assez exceptionnelle qui, au nom du droit, pourrait mettre en péril nos propres libertés, ou au nom de notre propre sécurité, pourrait mettre en péril notre propre liberté?
Il a introduit un contrôle du juge, ce qui est une garantie, effectivement, dans un régime démocratique, il est important que le juge puisse contrôler ce que fait le pouvoir exécutif. Donc, de ce point de vue-là, il a amélioré le texte, il a aussi utilisé ce qu'on appelle des réserves d'interprétation pour éviter des interprétations, disons, liberticides de certains dispositifs, notamment sur ce qu'on appelle le traçage, qui est une expression étrange qu'on a longtemps employée uniquement pour les produits. Les produits dangereux, il fallait pouvoir connaître leur tracé. Mais voilà que maintenant, on emploie le traçage pour les êtres humains. Les êtres humains considérés comme dangereux parce qu'ils seraient contagieux ou parce qu'ils auraient rencontré des gens contagieux. Ça, c'est quelque chose qui a été maintenu dans le principe, mais qui a été mieux encadré par le Conseil constitutionnel. C'est un progrès. Je pense qu'il reste quand même des menaces réelles pour nos droits fondamentaux si tous ces dispositifs devaient perdurer. Parce qu'on a là des instruments qui, pour le moment, sont limités à la crise sanitaire, mais il n'y aurait rien de plus facile que de les étendre à d'autres domaines si nous avions, par malheur, un gouvernement autoritaire qui se mettrait en place. Je crains qu'on bascule vers une vision plus moins humaniste et une sorte de déshumanisation, de même que le traçage permet de traiter l'être humain comme une marchandise. L'obéissance à l'ordre, ben, c'est un peu déshumanisé aussi s'il n'y a pas de discussion possible. C'est la crainte qu'on peut avoir. Il faut être vigilant sur cette question. Il me semble que dans une crise comme celle que nous vivons, ce qui est important, c'est que les humains restent responsables d'eux-mêmes, que chacun garde une part de responsabilité. Il ne faut pas diminuer cette part de responsabilité en disant on s'abandonne et on se contente d'obéir aux ordres, mais il faut maintenir cette part de responsabilité parce que c'est celle qui fait l'humanité de l'homme.
Alors ça, cette part de responsabilité, on peut dire qu'elle a été finalement obtenue, en tout cas en France, dans notre propre pays, quand les propositions d'isoler les malades et de les contraindre à se soustraire au corps social n'ont pas été adoptées. Et quand il y a eu des menaces, ça a duré plusieurs jours, sur les histoires des personnes âgées dites fragiles, quand il a été question pendant plusieurs jours, là aussi, de les déconfiner, peut-être en septembre, en octobre, ou peut-être jamais d'ailleurs.
Alors, il y a toute l'ambiguïté de ce mot de dangereux. On l'a connu autrefois à propos des mineurs. On disait les mineurs en danger. Les mineurs en danger, c'était des mineurs battus, par exemple. Mais ils basculaient très facilement de la catégorie mineurs en danger à la catégorie mineurs dangereux. Ils ont été maltraités dans leur famille, donc il faut s'en méfier, ils sont devenus dangereux. Et au fond, pour les personnes âgées, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Elles sont plus vulnérables, ça veut dire simplement que si elles attrapent le virus, en général, les conséquences sont plus graves pour elles. Mais du coup, elles sont considérées comme plus contagieuses, donc plus dangereuses. Et il y a la même bascule entre population à risque et population dangereuse. Et puis, simplement l'idée de ce mot de population qui réduit l'individu à une catégorie, alors qui peut être médicale, comme elle peut être sociale ou autre, c'est la négation du principe d'égale dignité de tous les êtres humains, article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La négation.
Donc on a l'impression aujourd'hui, dans le discours à la fois des scientifiques, mais aussi de certaines tutelles gouvernementales, que de toutes les façons, on est toujours dangereux pour l'autre, et que l'autre est dangereux pour soi. Mais qui est dangereux pour qui ? On a l'impression que peut-être aussi un glissement pourrait s'opérer d'une société de mutuelle confiance, ou en tout cas en apparence de mutuelle confiance, vers une société de défiance.
Oui, c'est un des dangers. C'était déjà l'inquiétude que j'avais eue quand on avait lancé ce terme de société de vigilance, qui est très ambigu. Certes, il faut être vigilant, mais la vigilance ne doit pas conduire à une défiance systématique. Alors, vous savez, c'est d'autant plus étonnant que de leur côté, les Chinois viennent d'insister sur le principe de confiance. Il y a un discours du président chinois récent qui valorise la notion de confiance. Alors, la population chinoise est invitée par son président à connaître les quatre confiances. Vous savez, à la façon chinoise, il y a les quatre confiances. Alors, confiance en soi, confiance dans son système, c'est-à-dire le système auquel on appartient, confiance dans ses théories et confiance dans sa civilisation. Je trouve ça extraordinaire que cette quadruple confiance soit rappelé et érigé en principe imposé en effet par le gouvernement chinois, alors qu'on a perdu un peu ce sens de la confiance chez nous.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue en confiné. Nous allons écouter les Beatles, Blackbird.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue. Nous rendons hommage ce soir à Mireille Delmas-Marty. Nous rediffusons l'émission du 12 mai 2020. Alors Mireille Delmas-Marty, je vous ai proposé, comme à tous nos autres invités, de choisir un texte. Un texte qui vous a interpellé durant les dernières semaines, un texte qui vous a fait réfléchir. Et vous avez choisi un texte qui effectivement a beaucoup divisé la communauté intellectuelle et philosophique, et politique d'ailleurs. C'est le texte de Giorgio Agamben. Alors il faut dire que Giorgio Agamben est un philosophe, plutôt un spécialiste du Moyen-Âge, des images. Petit à petit, durant les 15 dernières années, il s'est acheminé vers une réflexion sur la société, sur les restrictions des libertés, etc. Nous avons proposé à François Martouret, tout au long de cette semaine, de nous lire les textes choisis par les invités. Donc, je vous propose d'écouter ce texte de Giorgio Agamben, paru dans la presse en avril 2020, et ensuite, nous en discuterons ensemble.
Je voudrais partager avec qui en a envie une question à laquelle, depuis maintenant plus d'un mois, je ne cesse de réfléchir. Comment a-t-il pu advenir qu'un pays tout entier, sans s'en rendre compte, se soit écroulé éthiquement et politiquement, confronté à une maladie? Les mots que j'ai employés pour formuler cette question ont été un à un attentivement pesés. La mesure de l'abdication des principes éthiques et politiques qui nous sont propres est en effet très simple. Il s'agit de se demander quelle est la limite au-delà de laquelle on n'est pas disposé à y renoncer. Je crois que le lecteur qui se donnera la peine de considérer les points qui suivent ne pourra pas ne pas convenir, sans s'en rendre compte ou en feignant de ne pas s'en rendre compte, que le seuil qui sépare l'humanité de la barbarie a été franchi. Le premier point, peut-être le plus grave, concerne les corps des personnes mortes. Comment avons-nous pu accepter, seulement au nom d'un risque qu'il n'était pas possible de préciser, que des personnes qui nous sont chères et des êtres humains en général, non seulement mourussent seuls, chose qui n'était jamais arrivée auparavant dans l'histoire, d'Antigone à aujourd'hui, mais que leurs cadavres fussent brûlés sans funérailles. Deuxièmement, nous avons ensuite accepté, sans que cela nous pose trop de problèmes, seulement au nom d'un risque qu'il n'était pas possible de préciser, de limiter dans une mesure qui n'était jamais advenue auparavant dans l'histoire du pays, ni même durant les deux guerres mondiales. Le couvre-feu durant la guerre était limité à certaines heures. Notre liberté de mouvement. Nous avons en conséquence accepté, seulement au nom d'un risque qu'il n'était pas possible de préciser, de suspendre de fait nos liens d'amitié et d'amour, parce que notre prochain était devenu une possible source de contagion. Troisièmement, cela a pu advenir, et l'on touche ici la racine du phénomène, parce que nous avons scindé l'unité de notre expérience vitale, qui est toujours inséparablement corporelle et spirituelle, en une entité purement biologique d'une part, et une vie affective et culturelle d'autre part. Ivan Illich et David Cayley ont rappelé récemment les responsabilités de la médecine moderne dans cette scission, qui est donnée pour acquise, et qui, pourtant, est la plus grande des abstractions. Je sais bien que cette abstraction a été réalisée par la science moderne avec les dispositifs de réanimation qui peuvent maintenir un corps dans un état de pure vie végétative. Mais si cette condition s'étend au-delà des frontières spatiales et temporelles qui lui sont propres, comme on cherche aujourd'hui à le faire, et devient une sorte de principe de comportement social, on tombe dans des contradictions sans issue. Je sais que quelqu'un s'empressera de répondre qu'il s'agit d'une condition limitée dans le temps, que celle-ci une fois passée, tout redeviendra comme avant. Il est vraiment singulier que l'on puisse le répéter si ce n'est de mauvaise foi, du moment que les mêmes autorités qui ont proclamé l'urgence ne cessent de nous rappeler que quand l'urgence sera surmontée, il faudra continuer à observer les mêmes directives et que la distanciation sociale, comme on l'a appelée suivant un euphémisme significatif, sera le nouveau principe d'organisation de la société. Et en tout cas, ce que de bonne ou de mauvaise foi l'on a accepté de subir ne pourra pas être effacé. Je ne peux pas, à ce point précis, puisque j'ai accusé la responsabilité de chacun de nous, ne pas mentionner les responsabilités encore plus graves de ceux qui auraient eu le devoir de veiller sur la dignité de l'homme, avant tout l'Église, qui, se faisant la servante de la science, devenue désormais la religion de notre temps, a radicalement renié ses principes les plus essentiels. L'Église, sous un pape qui se nomme François, a oublié que François embrassait les lépreux. Elle a oublié que l'une des œuvres de la miséricorde est celle de visiter les malades. Elle a oublié que les martyrs enseignent qu'on doit être disposé à sacrifier la vie plutôt que la foi, et que renoncer à son prochain signifie renoncer à la foi. Une autre catégorie qui a manqué à ses devoirs est celle des juristes. Nous sommes habitués depuis longtemps à l'usage inconsidéré des décrets d'urgence, par lesquels, de fait, le pouvoir exécutif se substitue au législatif, abolissant le principe de séparation des pouvoirs qui définit la démocratie. Mais dans le cas présent, toute limite a été dépassée. Et l'on a l'impression que les mots du Premier ministre et du chef de la protection civile ont, comme on disait pour ceux du Führer, immédiatement valeur de loi. Et l'on ne voit pas comment, une fois épuisée la limite de validité temporelle des décrets d'urgence, les limitations de la liberté pourront être, comme on l'annonce, maintenues. Avec quel dispositif juridique ? Avec un état d'exception permanent ? Il est du devoir des juristes de vérifier comment sont respectées les règles de la Constitution. Mais les juristes se taisent. Quare silete juriste in munere vestro? Pourquoi vous, les juristes, êtes-vous silencieux sur votre métier? Je sais qu'il y aura immanquablement quelqu'un pour me répondre que même s'il est lourd, le sacrifice a été fait au nom de principes moraux. À celui-là, je voudrais rappeler qu'Eichmann, apparemment toute bonne foi, ne se lassait pas de répéter qu'il avait fait ce qu'il avait fait selon sa conscience, pour obéir à ce qu'il retenait être les préceptes de la morale kantienne. Une loi qui affirme qu'il faut renoncer au bien pour sauver le bien est tout aussi fausse et contradictoire que celle qui, pour protéger la liberté, impose de renoncer à la liberté.
Alors Mireille Delmas-Marty, pourquoi avez-vous choisi ce texte de Giorgio Agamben?
Parce qu'il me semble qu'il a vraiment était au cœur du débat qu'on n'a pas suffisamment eu, à mon avis, en France, sur la bifurcation de toute la société à la suite de cette pandémie. Il me semble que, dans le texte de Giorgio Agamben, il met l'accent sur ce qui est derrière, en profondeur, c'est la relation de l'homme à sa santé, à sa sécurité sanitaire, et par là même, la vision qu'on a de l'humanité de l'homme. Au fond, tout est axé sur le droit à la vie. Les libertés s'effacent devant le droit à la vie. Et le droit à la vie, c'est au fond le culte de la sécurité. Et le droit à la vie, je dirais, pourtant, il n'est pas le propre de l'homme. L'homme la partage, le partage ce droit à la vie, droit à la sécurité, il le partage avec les autres êtres vivants. En revanche, ce qui me paraît étrange, et il me semble que le texte de Giorgio Agamben le dit assez clairement, c'est le glissement qui fait que on sépare complètement la sécurité des autres droits. Donc on sépare ce qui fait l'humain de l'homme de ce que l'homme partage avec les autres vivants. Moi, ce qui m'intéresse dans l'être humain, c'est ce qui fait son humanité. Et ce qui fait son humanité, ce n'est pas la vie, puisqu'il la partage. Ce qui fait son humanité, c'est au fond tout ce qu'on a essayé de construire autour de ce terme qui est très décrié à l'heure actuelle, d'humanisme. Pour reprendre le terme, je crois qu'il faut le prendre au pluriel. Il n'y a pas un humanisme, il y a plusieurs visions de l'humanisme, mais c'est dans l'humanisme qu'on retrouve le propre de l'homme. Et ce qu'on oublie peut-être un peu, c'est cette dimension. L'homme n'est pas seulement un corps vivant, il est un esprit, pourrait-on dire. Il y a quelque chose comme l'âme ou l'esprit qui est au moins aussi précieux que la vie elle-même. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se séparer ou qui pourrait se séparer, et ça me paraît extrêmement inquiétant. Dans le livre que vous évoquez, j'ai fait référence à un séminaire que nous avions tenu il y a une dizaine d'années maintenant au Collège de France sur hominisation et humanisation. Car au fond, notre histoire, elle est faite des deux. Dans la longue durée, il y a la lente hominisation autour d'une espèce unique, l'espèce humaine. Et puis, plus récemment, à travers les cultures qui se sont diversifiées, il y a eu déshumanisation avec leur pluralisme, leur pluralité et leur pluralisme, qui ont transformé l'homme simple animal vivant et l'humain avec tout ce qu'il a d'une part de... Il y a une part de mystère dans l'être humain, dans l'humanisation par rapport à l'hominisation. Et je crois qu'on ne peut pas les séparer. Je crois que l'humain, il est fait des deux. Et les deux sont inséparables, le corps et l'esprit.
Alors j'aimerais bien qu'on revienne sur...
Ce que je partage avec Agamben, c'est cette séparation, cette crainte qu'il exprime devant la séparation du corps et de l'esprit.
Alors il emploie des mots très durs, hein. Il dit que le seuil qui sépare l'humanité de la barbarie a été franchi au cours de cette pandémie. Ouais. Mais je voudrais qu'on revienne sur le premier point qu'il souligne, c'est-à-dire, il dit que c'est le plus grave d'ailleurs, c'est le corps des personnes mortes. Il dit,
oui,
comment avons-nous pu accepter, seulement au nom d'un risque, il n'était pas possible de préciser que les personnes qui nous sont chères, et les êtres humains en général, non seulement mourus seuls, chose qui n'était jamais arrivée auparavant dans l'histoire d'Antigone à aujourd'hui. Donc
et
effectivement,
oui, Antigone, c'est la sépulture.
Et donc là, pour vous, c'est un point de bascule aussi, c'est-à-dire qu'au nom de la sécurité sanitaire, au nom de l'exception sanitaire, on a franchi et transgressé ce qu'on nomme, pour nous définir, l'humanité.
Oui, l'humanité de l'homme, ce qu'il y a d'humain dans l'homme. Et ce qu'il y a d'humain dans l'homme, c'est pas la vie. Ce qui est humain dans l'homme, c'est justement le respect des morts, le respect de l'égale dignité, le fait de ne pas trier non plus les patients en fonction de leur capacité de survie. Au fond, tout s'est un peu axé autour de l'idée de la survie de l'espèce. Mais moi, ce qui m'intéresse dans l'humanité, c'est pas tellement la survie de l'espèce, c'est l'humanisation progressive, le fait que d'une espèce biologique, on arrive à une spiritualité qui augmente et qui était supposée durer et grandir. Le fait que l'homme grandisse progressivement, pas tellement à travers les prothèses qui sont bien utiles parfois, mais qui ne sont pas suffisantes pour le grandir, mais grandisse à travers cette humanisation progressive, c'est ça qui me paraît le défi. C'est à la fois un mystère et un défi je ne voudrais pas abandonner, voire abandonner.
Et c'est pour ça on pourrait vous objecter, Mireille Delmas-Marty, que ce droit à l'épreuve de la démocratie, ce droit qui finalement se manifeste par une sécurité ou une protection maximale de la vie humaine est une bonne chose et que certains gouvernements démocratiques, la quasi-majorité d'entre eux, a choisi la sécurité de ses citoyens contre l'économie et que certains autres... on les connaît par cœur, ont choisi d'ignorer la pandémie en mettant en risque leurs propres citoyens, pensant que l'économie devait continuer à tout prix.
Alors, en parlant de l'économie, vous touchez à quelque chose qui me paraît très important dans la situation actuelle. C'est au fond l'ébranlement, et il peut y avoir des conséquences positives de ce point de vue-là à la crise sanitaire. C'est l'ébranlement des dogmes sur lesquels nous vivions. Le premier dogme étant celui de la croissance. Alors effectivement, là, en quelques mois, on a mis à bas, c'est d'ailleurs assez étonnant de penser qu'un tout petit virus a réussi ce que personne n'avait réussi à faire jusque-là, remettre en cause le dogme de la croissance. Alors est-ce qu'à la sortie... Le fameux monde d'après va renoncer lui aussi à ce dogme de la croissance, ou est-ce qu'on va y revenir? Ça n'est pas joué, mais il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et qui rend possible. En fait, moi, j'aurais tendance à dire de ce point de vue-là que la pandémie actuelle, la crise sanitaire, pourrait bien ébranler plusieurs dogmes. Alors, le dogme de l'économie, d'une part, mais aussi le dogme de la souveraineté des États, car en apparence, il y a un repli souverainiste, puisqu'on ferme les frontières, mais en même temps, il y a la reconnaissance, comment faire autrement, de notre interdépendance. Nous sommes interdépendants les uns des autres. Tous les États sont interdépendants entre eux à un niveau qui n'avait jamais été atteint. Alors ça va de le problème de distribution des médicaments ou des vaccins, à des questions de choix de la réponse, de choix de gouvernance à l'échelle mondiale. Donc là, il y a peut-être un deuxième dogme plus fort encore, mais qui est en train d'être ébranlé, c'est celui de la souveraineté au sens souveraineté absolue. Les États restent souverains, ils peuvent faire chacun un certain nombre de choses, mais en gros, ils suivent un modèle assez proche d'un pays à l'autre. Donc il y a une sorte de démonstration assez étonnante de l'interdépendance qui existe au niveau planétaire entre les humains. Cette interdépendance, elle existe aussi, mais ça c'est une autre crise qui risque de nous rejoindre un jour ou l'autre, la crise du changement climatique. L'interdépendance, elle existe aussi entre nous les humains et les vivants non humains. C'est tout le problème de l'anthropocentrisme qui règne encore trop souvent sur la gouvernance à la fois nationale et mondiale. Donc je crois que c'est une occasion assez exceptionnelle, si on arrive à la saisir en temps utile, pour remettre en cause la croissance, la souveraineté des États, vous allez me dire j'y vais peut-être un peu fort, et l'anthropocentrisme. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que la crise sanitaire ne nous protège pas des autres crises possibles, à commencer par le changement climatique. Or, les réponses ne sont pas forcément les mêmes à l'une des crises ou à l'autre des crises. Donc, il y a tout un équilibrage qu'il faudra apprendre à faire. Et je crois qu'on a déjà une sorte de démonstration intéressante au passage, avec la diminution de la pollution à la suite du confinement. Ce n'est pas forcément un argument pour dire qu'il faut garder le confinement, mais c'est certainement un argument pour dire qu'il faut éviter le croisement dans lequel une crise se renforce à travers une autre.
Imaginez. Alors dans les dogmes qui risquent d'être ébranlés par cette pandémie, il y a aussi le dogme religieux auquel fait référence d'ailleurs... de manière assez violente, Giorgio Agamben, quand il parle de notre pape François, qui oubliait que son François, d'où il a tiré son nom, embrassait les lépreux. Pensez-vous que justement ces dogmes religieux vont être ébranlés, selon vous, Mireille Delmas-Marty ?
Pourquoi pas ? La question de la résistance des dogmes est une question difficile qu'il faudrait étudier de plus près. Mais en tout cas, ça me paraît dans la logique de ce qui se met en place, effectivement. Et je pense que c'est en soi, c'est une bonne chose. Tout dépend ce qu'on va en faire ensuite. J'étais à la fois fascinée et un peu méfiante devant les courants collapsologiques, mais ils nous montraient que nous allions tout droit vers toute une série de catastrophes qui sont étayées dans certains des textes que j'ai pu lire par des arguments scientifiques assez solides.
Donc, si êtes-vous pour la qualification du crime d'écocide à l'heure de l'Anthropocène,
oui.
Mireille Delmas-Marty ?
Oui, mais à condition qu'il soit défini de façon précise, que n'importe quoi ne puisse pas être qualifié d'écocide, c'est-à-dire à condition qu'on retrouve ce qu'on lit déjà dans le code pénal quand on parle de crimes contre l'humanité. Il faut quelque chose de massif et de systématique. L'écocide, s'il doit exister comme crime, je pense que c'est tout à fait souhaitable, à condition qu'il soit encadré par des normes assez précises, qu'on ne puisse pas qualifier toute atteinte à l'environnement, toute destruction d'un végétal, par exemple, arracher une fleur dans un parc national, c'est pas un écocide. Donc, il faut arriver à l'encadrer, mais il y a plusieurs projets qui circulent à l'heure actuelle, et je crois que ce serait une bonne occasion de relancer le débat à ce sujet. Cela dit, il ne faut pas opposer l'écocide au crime contre l'humanité. Il faut considérer qu'ils sont complémentaires. Parce que sinon, il y aura la crainte, certains mouvements écologiques très radicaux qui finissent par annoncer la disparition de l'homme pour mieux protéger la nature. Je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusqu'à fusionner complètement l'homme et la nature, parce qu'il reste quand même une différence qui me paraît forte entre l'homme et les autres vivants, les autres êtres vivants de notre planète, c'est que l'homme est la seule, j'allais dire espèce, le seul ensemble à la fois conscient et responsable. Il y a peut-être une forme de conscience ou de sensibilité, en tout cas chez certains animaux, mais il n'y a pas de sens de la responsabilité. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, malgré tout, fait de l'homme une catégorie un peu à part. Donc l'écologie, oui, et sa combinaison avec l'humanisme me paraît un des domaines dans lesquels il faut encore beaucoup travailler dans les années qui viennent.
Donc ça veut dire un changement juridique, un changement d'appareillage juridique, un changement de la pensée même de ce que ça veut dire le droit. D'ailleurs, il y a un mouvement général qui s'amorce dans le monde, puisqu'on sait qu'il y a des pays qui ont voté au Parlement, comme par exemple en Nouvelle-Zélande, une loi disant qu'un fleuve était une entité vivante, en Inde aussi, etc. Tout ça nécessite une vision du droit comme une discipline en devenir. Est-ce que le plus important aujourd'hui, Mireille Delmas-Marty, ce n'est pas de penser le droit comme étant quelque chose qui nous accompagne, qui nous protège, mais qui ne soit pas une culture de la peur? On a l'impression, à lire votre dernier ouvrage, qu'effectivement, nous vivons dans une culture de la peur.
Oui, en tout cas, c'est ce qui peut se produire peut-être de plus inquiétant, je dirais. Cette culture de la peur, elle est inquiétante parce que Elle ne renforce pas notre responsabilité. Elle nous rend au contraire un peu, comme je disais, comme des animaux timides. C'est l'image que donnait d'ailleurs Tocqueville, c'est pas si récent que ça, au XIXe siècle, quand il disait à quoi ressemblera le despotisme en démocratie. Et il décrivait les humains comme des troupeaux d'animaux timides qui suivent leur bon berger, qui répondent au signal, comme je disais tout à l'heure. Donc les sociétés de la peur, la gouvernance par la peur, peut être quelque chose qui réduit le propre de l'homme, donc sa responsabilité. Et ça, on peut le craindre. En revanche, on peut aussi espérer que, effectivement, l'homme ne se mette plus au centre de la Terre, mais que, dans sa position décentrée, il reste quand même un être responsable. Alors, si vous parliez des procès faits au nom des rivières dans certaines régions du monde, il y a aussi eu des procès au nom des montagnes, au nom des forêts, la forêt amazonienne. Et là, je dirais que traiter la rivière ou la montagne comme une personne, c'est un peu limite, parce que c'est une personne qui est protégée, mais qui n'est pas responsable. Or, pour moi, la notion même de personne suppose la conscience et la responsabilité. Donc, il vaudrait mieux, dans ces domaines, parler, utiliser un terme dont on commence à faire usage depuis quelques années maintenant, qui est le terme de bien commun mondial. La nature est un bien commun mondial. La protection des forêts, par exemple la forêt amazonienne, qui compte beaucoup dans la lutte contre le changement climatique, c'est un bien commun mondial. Donc ce dont on aurait besoin dans le champ juridique, c'est d'arriver à construire. Alors, à la fois au niveau national, ça peut être introduit dans les constitutions des différents États, et puis construire au niveau international. Peut-être aurions-nous besoin d'une sorte d'organisation mondiale des biens communs qui établirait les règles du jeu en la matière, parce que ces règles concernent tout le monde. Alors là, je pense qu'il y a un vaste chantier. Il peut être développé à partir de l'écologie, mais aussi à partir d'autres domaines. La santé, c'est un bien commun mondial, pas seulement l'écologie. Donc, à mon avis, c'est un terme qui pourrait réconcilier différents courants. Et dans ce sens, donc, c'est aussi une fonction du droit de réconcilier les contraires.
Donc vous pensez que le droit est un outil fondamental pour repenser l'après aujourd'hui. Est-ce que vous aurez la possibilité d'exprimer vos propres points de vue à l'intérieur de cette société qui, je l'espère, ne va pas vivre comme avant, comme si tout allait s'oublier?
Bah écoutez, oui, pour le moment, j'ai l'impression que la liberté d'expression n'a pas été supprimée, loin de là. Je crois qu'un des aspects positifs, c'est l'extrême variété des positions qui se sont exprimées autour de la crise sanitaire. Donc oui, je pense que nous aurons tous la possibilité de nous exprimer. Et je pense que ce qui est important, c'est que on s'exprime de façon dialoguée, de façon de ne pas hésiter à s'exprimer de façon contradictoire les uns par rapport aux autres. Je crois qu'on a plus que jamais besoin d'un débat contradictoire. On a plus que jamais besoin de vivre avec nos contradictions. Vous savez, il y a quelques années, j'avais fait une rose des vents pour essayer de montrer que les vents de la mondialisation soufflaient un peu dans tous les sens. Et vous avez, par exemple, le vent de la sécurité contre le vent des libertés, le vent de la compétition contre le vent de la coopération, le vent de l'innovation contre le vent de la conservation. Et ça me paraît une bonne chose, d'une certaine manière, que les contradictions existent. Simplement, pour que ce soit gérable, pour que ce ne soit pas le vaste chaos ou le grand bazar, il faut que ces contradictions soient régulées par des sortes de principes régulateurs qui permettent de les faire fonctionner en complémentarité et pas en opposition. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai proposé à la fin du petit livre dont vous parlez une boussole des possibles qui permettrait justement de chercher un équilibre entre les contraires. Je ne crois pas qu'il faille supprimer les contradictions. Je crois qu'il faut essayer de les équilibrer. Il faut essayer de stabiliser après l'opposition, de trouver une sorte d'équilibre dynamique. Vous savez, la notion d'équilibre dynamique, elle est très intéressante parce que ce n'est pas un équilibre statique, immobile, arrêté. C'est un équilibre en mouvement. L'image qu'on emploie toujours pour décrire l'équilibre dynamique, c'est la bicyclette. Si on arrête de pédaler, on tombe. Eh bien, l'équilibre que je souhaite pour notre humanité si fragile et si tourmentée à l'heure actuelle, c'est qu'on arrive à trouver des principes régulateurs qui nous permettent d'avoir un équilibre dynamique, un équilibre en mouvement qui ne supprime pas les contradictions, mais qui les apaise en quelque sorte.
Ben merci beaucoup, Mireille Delmas-Marty. Je rappelle que votre ouvrage, qui sort ces jours-ci s'intitule « Une boussole des possibles », qu'il est publié par le Collège de France. Et je rappelle aussi que, ben, d'une certaine façon, après avoir entendu le texte de Giorgio Agamben, lu par François Martouret, je rappelle que finalement les juristes ne se taisent pas et que vous lui avez bien répondu. C'est avec le manège de November Ultra que nous allons nous quitter ce soir. Vous venez d'écouter la rediffusion de l'émission avec Mireille Delmas-Marty qui date du 12 mai 2020 en hommage à sa mémoire. Vous pouvez consulter tous les livres de Mireille Delmas-Marty. Le dernier s'intitulait La boussole des possibles. Merci à Mathias Alléon qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Marie Clément et à Lilian Allôme. Ce soir, vous avez rendez-vous après le prochain journal d'information, bien sûr, avec l'ami Mishka Assayas pour le début de son nouveau Very Good Trip.